Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Hey, salut Maxime, comment ça va?
Ça va bien toi Mario?
Ça va bien, combien de monde t'ont dit, ah, il fait chaud aujourd'hui hein Max?
Il faisait chaud, puis mes pauvres filles sont venues de l'école, puis il y avait les cheveux frisés sur la tête.
Ah oui, c'est vrai?
Il avait l'air d'avoir fait chaud des classes pour à peu près.
C'est drôle, moi ma fille, elle aime ça quand ça frise parce qu'elle a les cheveux plus raides un peu comme moi, fait que quand ça provoque ça, elle est bien contente, ça donne des petits frisous, fait que vous avez traversé ça,
ouais.
Ça sans trop de problème Max?
Ouais, c'était bien correct.
Ouais. Alors, t'es-tu un gars d'air conditionné ou tu composes avec la chaleur?
Ah, moi, je suis pas capable, Mario. La chaleur, j'ai de la difficulté avec ça à un autre niveau. Si je pouvais dormir avec un sac de glace sur la tête, je pense que je le ferais. Non, je suis pas capable. J'aime ça quand il fait beau, jouer au golf et tout ça, mais chaud comme aujourd'hui, pour moi, c'est très difficile. Puis, J'ai vécu un petit choc dans ma vie quand je suis arrivé à Lugano en Suisse, parlant de chaleur et tout, puis il fait très chaud là-bas là, l'été en passant, là, c'est très humide, très chaud, puis je suis arrivé là, puis il n'y avait pas d'air climatisé dans le vestiaire, puis la porte du vestiaire était presque dehors, là, la façon que c'était construit là-bas, puis à un moment donné, on s'était rendu la première année en finale, puis entre les périodes, il faisait sérieusement, il devait faire 28 dans le vestiaire. Là, ça avait pas de bon sens. Là. Puis j'ai été voir le propriétaire, il dit là, l'année prochaine au camp, ça prend de l'air climatisé dans le vestiaire, ça n'a pas de bon sens. Il y a un joueur qui va perdre connaissance à un moment donné. Là, tu veux pas, tu
ben
veux
oui.
Récupérer, tu rentres, puis tu vas suffoquer à un moment donné. Là, fait que finalement, on est entré l'année d'après, puis elle avait installé ça. Puis honnêtement, les gars, elle l'appréciait grandement.
Mais là, Maxime, c'est incroyable. En quelle année ça s'est passé? Ça a pris tout ce temps-là. Il a fallu que Maxime Lapierre colle la shot, si tu me passes l'expression, pour qu'il s'ajuste. Ben oui, c'est personne n'ose le dire.
Là-bas, c'est pas en mode, hein. Tu sais, la plupart des joueurs, même dans leur domicile familial, ils ont pas ça. Puis c'est bien correct pour eux autres, sont habitués. Puis ça fait pas partie de la mentalité européenne. Puis même qu'il y a des joueurs qui avaient de la difficulté, ils étaient habillés presque avec une tuque dans le vestiaire parce que pour eux autres, c'était pas normal. Puis ils avaient peur de ça. Peut-être avec raison, mais c'était nouveau pour eux aussi. Puis finalement, il y a plus de joueurs qui aimaient ça que qui aimaient pas tout.
Mais toi, Max, puis peut-être que tu pourrais te reprendre dans une ligue de garage, mais je sais pas si t'as pris connaissance de ça. Je sais que tu surveilles pas mal tout ce qui se passe dans le monde du sport, mais c'est une innovation qui arrive du monde du football, c'est-à-dire des casques.
Ouais,
ben oui, avec une espèce de système de refroidissement intégré dans le casque, une espèce d'air conditionné intégré dans le casque. Écoute,
Je veux pas être vulgaire, Mario, mais j'ai hâte qu'il en fasse des babettes aussi, parce que des fois, il fait chaud pas peu près.
Oui, me semble de te voir avec un petit sac de glace, ou comment qu'on appelle ça, des affaires pour mettre dans nos boîtes à lunch, là, je joue les... Ouais, c'est ça. Alors, tu mets ça, chaque bord, à place de tes protecteurs, c'est côté d'un culotte, mais là, on va te dire, d'après moi, tu moucherais souvent le lendemain matin, ou je sais pas, là. Ça doit être dérégler un système. Des grosses nouvelles, mais des méchantes bonnes anecdotes. Mais comment ils faisaient de garder la glace? La glace, était-tu patinable ou?
Ouais, ben, c'était quand même molle, mais il y avait un système, là, de pour enlever l'humidité dans le building, puis tu sais, c'était bruyant quand même, mais il fallait absolument le faire. Sinon, même, on voyait pas beaucoup sa patinoire, vraiment, qu'il y avait un genre de brouillard, là. Donc, c'était beaucoup d'entretien. Puis tu sais, la réalité, c'est que c'est pas des buildings de la Ligue nationale de hockey non plus. Donc, ils essaient de faire leur possible pour nous donner une glace professionnelle, puis de maintenir ça à un haut niveau de la qualité de la glace. Mais ils font un bon travail pareil.
Des grosses nouvelles dans le monde du hockey. Je t'amène à les commenter dans quelques instants. Mais d'abord, juste revenir sur la finale qu'on a beaucoup commenté. On a beaucoup parlé des candidats au Conn Smythe du côté des Panthers de la Floride, mais pas beaucoup dans le cas des Golden Knights de Vegas. Vois-tu un candidat? La production offensive est répartie à travers deux, trois gars. Qui serait le candidat numéro un avant même de partir de la finale pour Vegas?
Ouf, ça va être difficile. Je pense que il y a beaucoup de joueurs qui font des bonnes choses. En ce moment, pour moi, le gardien fait tout un travail. Là. Hill, je pense que je serais pas gêné de donner à lui parce que il a fait des gros arrêts. Il a tenu son équipe dans le match tout le temps. Il fait pas c'est pas toujours spectaculaire, mais il fait toujours ce qu'il a à faire pour tenir son équipe dans le match. De l'autre côté, tu sais, la façon de se comporter de la part de Jack Eichel, je trouve ça phénoménal. Tu sais, l'amélioration là, c'est incroyable en deux ans, mettons, là, de le voir faire des replis défensifs, de le voir être concentré défensivement, de faire des gros jeux offensivement. Puis j'ai pas le choix le troisième de mentionner Marchessault. Tu sais, Jonathan Marchessault, là, les gros buts, il est là au bon moment. Puis lui, c'est une question de qualité peut-être au lieu de quantité, mais c'est quand même une bonne quantité. Mais je veux dire, c'est toujours le gros but important. Oui. Puis il amène toujours l'intensité sur la patinoire. Puis c'est difficile de pas suivre ce gars-là parce que quand il embarque sa glace, lui, il est là pour gagner pas à peu près. L'attitude, c'est exemplaire. Ça va être une grosse décision à prendre. Mais pour l'instant, moi, c'est le gardien de but.
Il est vraiment dans la conversation, Jonathan. Hill, ben, ça serait dans la tradition de plusieurs, ben, tradition. Il y en a eu plusieurs gardiens de but. Pas que c'est un gardien recru, là, quand même. Il est passé à mi-vingtaine. Mais, il reste que c'est un gars dont on n'avait pas beaucoup parlé avant cette année. C'est la première fois même qu'il jouait vraiment pleinement le rôle de numéro 2 avec une quantité de départ appréciable. D'autre part, dans les nouvelles de la journée, Trey Living qui est présenté aux médias, qui explique un petit peu sa vision. Kyle Dubas, qui lui s'amène comme président des Penguins de Pittsburgh, va assurer l'intérim à la direction générale. Est-ce que ça te surprend ou tu penses que c'est... Qu'est-ce que tu en penses, tout simplement?
Ben, je vais parler des deux parce que j'ai trouvé ça très intéressant, les deux mentalités aujourd'hui. Premièrement, à Toronto, je trouve que le directeur général qui arrive en place puis que le premier point qu'il met au clair, c'est d'arrêtons de pointer les quatre super vedettes de l'équipe parce que c'est un sport d'équipe. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ça a pris une heure puis il a déjà enlevé de la pression sur ses joueurs étoiles. Puis je trouve que c'est très très intelligent de sa part, puis tu le dises aux partisans aussi que c'est pas juste quatre joueurs qui font gagner une équipe. Puis la réalité, c'est ça, on en a parlé hier, Mario, ils ont pas de défensive, le gardien c'est ordinaire, donc si on est capable d'améliorer ça avec quatre joueurs étoiles d'une certaine profondeur, juste là t'as réglé un gros problème. Puis de l'autre côté, du côté de Dubas, ben je pense que t'sais, lui, quand il était à Toronto, il semblait, en tout cas, de l'extérieur, avoir Shanahan dans les jambes. Je pense pas que c'était toujours évident de prendre une décision. Là, je pense qu'on change d'étage. Là, ça va être difficile avec des gars comme Crosby, le temps Malkin. T'sais, quand même, faut que tu respectes ces gars-là. Puis je comprends, là, que dans la vie, t'as un travail à faire, mais je peux pas vraiment passer par-dessus Sidney Crosby pour prendre une décision. Puis je pense qu'il l'a déjà dit, il a été discuté avec lui et tout ça, puis que ça a changé vraiment sa façon de voir les choses, puis que ça il veut continuer, puis il pense qu'il est capable de gagner avec ces gars-là, avec cet entraîneur-là. J'ai hâte de voir par contre qui va prendre comme directeur général, parce qu'on s'entend que s'il y a cette position-là, c'est parce qu'il veut avoir le contrôle d'une certaine façon, puis oui. T'amèneras pas un directeur général. Moi, en tout cas, je pense pas que ça va être un vétéran qui est là depuis très, très longtemps, qui va se faire dire quoi faire en arrière par un genou comme ça. C'est très, très particulier comme situation, puis j'ai vraiment hâte de voir.
Trouves-tu que... Toi, tu peux-tu observer à distance? C'est sûr que si on avait été à son contact, peut-être qu'on serait complètement conquis. Je sais que Martin McGuire, qui sera avec nous plus tard, a une très, très bonne opinion de Kyle Dubas. Mais trouves-tu qu'autant lui que Trey Living ont fait quelque chose d'assez exceptionnel pour obtenir un emploi en claquant des doigts la semaine d'après?
Je vais être sincère. Du côté, c'est vraiment différent. Par contre, je trouve que Triving, de son côté, si on regarde le côté victoire puis trophée puis tout ça, je trouve qu'il n'en a peut-être pas fait assez. Puis c'est arrivé rapide. On s'entend, on s'est garoché dessus comme si c'était le meilleur directeur général de l'histoire. Là, ça a été très très rapide quand même.
C'est ça.
De l'autre côté, par contre, je pense qu'il faut voir ça comme si c'était un jeune joueur de hockey qui on voit un potentiel extraordinaire en lui. Tu sais, Dubé, c'est une jeune personne là, quand même, pour être directeur général dans la Ligue nationale de hockey. Si je me trompe pas, il y a 38 ans environ, il y a mon âge. C'est un gros potentiel quand même d'avoir ces responsabilités-là, surtout quand tu commences dans un marché comme les Leafs de Toronto. Pour moi, ça veut dire qu'il va continuer d'évoluer, puis il va apprendre de ses erreurs, puis c'est la nouvelle mentalité. Donc, de ce côté-là, je le comprends un peu, Mario.
Et quel serait le premier geste à poser? En tout cas, Trey Living l'a dit, lui s'en va un peu comme tu l'as souligné, là, lui s'en va en Arizona, s'en va établir sa relation avec son joueur vedette. Et moi, je voulais te parler justement des relations avec les joueurs vedettes. On sent aussi que Sidney Crosby, probablement juste à titre, amène large. Mais toi, comme joueur, étais-tu témoin que les coachs prenaient une attention particulière aux joueurs vedettes?
Ben oui, 100%, parce que tu sais, la réalité, c'est que c'est eux qui vont sauvegarder ton emploi. Tu sais, si les joueurs vedettes décident qu'ils sont bien avec toi puis qu'ils vont tout donner, tu peux rester longtemps dans la Ligue nationale. Tu regardes à John Cooper à Tampa Bay, les joueurs jouent pour lui. C'est évident que son noyau est là pour tout donner pour cet entraîneur-là. Puis t'as pas le choix. Puis tu sais, à l'opposé, je respectais ça moi en tant que joueur de quatrième trio. Que écoute. Moi, je suis là pour aider ces gars-là, les super vedettes. C'est leur équipe, tu sais. Si t'es capable de t'avouer ça dans ta tête, c'est pas moi qui allais faire gagner le match, Mario. J'étais capable de faire mes tâches puis de faire ce que j'avais à faire pour soutenir les acteurs principaux dans l'organisation. Mais la réalité, c'est que le gros but, c'est qui est Marc? C'est les Crosby, c'est les Malkin, c'est les super vedettes dans la Ligue nationale d'hockey, c'est les Ovechkin. Donc, oui, il faut que tu rentres.
C'est Max Lapierre aussi dans une série finale avec les Canucks de Vancouver dans un match d'un zéro.
Oui, je suis d'accord, mais tu sais, la réalité, Mario, je pense que les mentalités, un gars de quatrième trio va toujours être de bonne humeur puis accepter la critique parce qu'il sait qu'il se bat toujours pour un contrat. De l'autre côté, quand t'as des joueurs étoiles, la plupart du temps, ils s'établissent pour 7, 8, 9 ans. Tu sais, tu peux pas arriver avec un contrat à long terme puis que ça fonctionne pas avec l'entraîneur. Donc oui, c'est important ce qu'il fait d'aller en Arizona, de parler avec son joueur étoile, de savoir ce qu'il pense de l'organisation. Puis des fois, il y a des choses qui sortent de ça, puis c'est pas tout simplement on n'est pas bon puis il faut changer des affaires. C'est de trouver la bonne personne pour jouer avec lui. Est-ce qu'il aime mieux avoir un gars rapide, il y a un gaucher, un droitier, un marqueur, un passeur, puis là, après une discussion, tu te rends compte peut-être que ouais, il était pas matché avec les bons joueurs du tout, puis on va recommencer, on va construire de quoi de mieux pour l'entourer.
Penses-tu qu'il y a des joueurs vedettes, puis peut-être pas ceux que tu as côtoyés, parce que tu en as côtoyé des bons, là, vraiment des exemplaires, mais même ceux qui sont reconnus comme étant bons puis étant sages, tu sais, tu dis que Dubas est un peu jeune peut-être pour être le chef d'une organisation, le président, mais les joueurs vedettes ont parfois, je dirais pas à tous les jours d'une année, mais ont parfois le pouvoir d'un président tellement il emmène large dans une organisation.
Ben, 100%. Je vais te conter une petite anecdote là-dessus. Quand je suis arrivé à Anaheim, moi, Timo Selanne était encore là, puis là, c'était pas un jeune à l'époque, là, mais juste pour te montrer, là, l'entraîneur, c'était Randy Carlisle, puis il était rentré après le match, il était pas content, puis il a dit demain, c'est une pratique à telle heure, puis Timo Selanne, devant lui, s'est levé, il a effacé l'heure de la pratique sur le tableau, puis il a dit day off, golf day. Que ça donne un exemple à quel point ils ont du pouvoir.
Wow.
Je peux dire qu'on a eu une journée de congé.
Boy. Mais toi, comment t'as réagi?
Ben, tu regardes un gars que tu fais dans la Ligue nationale de hockey, même l'entraîneur. Qu'est-ce que tu voulais que Randy Carlisle lui dise? S'il n'est pas pour dire tes mots, non, c'est une journée de pratique. T'sais, moi, comme c'est encore une fois, les joueurs vedettes, ils ont golfé, puis un gars comme moi, ben, je me suis présenté par respect pour l'entraîneur, puis j'ai fait un peu de vélo, puis je suis parti après. Là,
fait que c'est devenu une optionnelle, c'est ça que tu dis?
Ben, c'était, il n'y avait pas rien, mais tu sais.
Mais Carlisle se sentait-tu comme attaqué dans son autorité, tu penses? Ou c'était comme, les gars, on pouvait en sourire? Je sais pas, c'était quoi le climat? Aviez-vous perdu bien des matchs? Étiez-vous en...
Ouais, on se battait pour une place en série. Puis tu sais, il y a pas eu un froid, parce que je pense que ces deux gars-là avaient déjà joué ensemble à l'année recrue de c'est l'année à Winnipeg,
oui.
Si je me trompe pas. Donc, c'était deux anciens coéquipiers. Tu sais, il y a pas eu de chicane, mais je peux pas te dire que Carlisle a souri.
Ben non, c'est sûr. En as-tu d'autres des pas pires de même, Max?
Ben, j'en ai vu plein, tu sais. Puis, des fois, c'est avec raison, des fois, c'est avec tort, parce que je pense que tu respectes ton entraîneur quand même, mais je me rappellerai à Saint-Louis, il y avait un joueur, je pense que c'était Tarasenko, puis Kanetchka qui avait dit, tu sais, il avait fait un revirement ou quelque chose du genre. En tout cas, il avait fait quelque chose que Kanetchka n'aimait pas sur la patinoire durant le match, puis il a dit, tu veux-tu jouer au prochain match? Puis l'autre s'est retourné, puis il a dit, toi, tu veux-tu coacher au prochain match?
Wow!
Ça voulait-tu dire que j'ai un certain contrôle quand même? Puis, tu sais, je veux pas dire qu'il y a raison ou à tort, là. Au contraire, là, il y avait peut-être tort dans cette situation-là, mais encore une fois, c'est un joueur qui est signé à long terme. Qu'est-ce que tu vas faire s'il est pas heureux? Puis c'est difficile d'échanger ces gars-là. Il y a un certain pouvoir pour le joueur quand même. Mmh,
absolument. Maxime, question d'un auditeur, puis je pense qu'elle est tout à fait pertinente compte tenu de ton expérience. J'ai fait référence tout à l'heure à ton expérience avec Vancouver, une finale de la Coupe Stanley. Alors, peux-tu nous expliquer comment on se sent, Sébastien qui demande, comment on se sent dans le dernier blitz vers la Coupe Stanley, alors que là, on est à l'avant-veille du début de cette finale-là. Tu as une idée de comment les joueurs des deux équipes se sentent, comment on se prépare aussi?
Honnêtement, Mario, là, on dirait que j'étais en santé pendant 2 heures dans une journée. Je dormais toute la journée, les journées de congé. Je regardais la télé dans mon lit. Puis le lendemain, on allait à l'aréna, on pratiquait même pas le matin souvent. Puis t'as pas d'énergie tant que l'adrénaline n'embarque pas. T'sais, quand t'arrives à l'aréna là, à 4h30, là, tu commences à bien te sentir, là, tu prends un café, tu fais tes affaires, puis un petit réchauffement, mais c'est de l'épuisement total. Puis tu vois que sur l'adrénaline, parce que aussitôt que tu sors de l'aréna le dernier soir, que tu as gagné ou perdu, tu attrapes une grippe, tu files pas, tu es fatigué pendant un mois, tu vois que là tout s'effondre après ça parce que c'est très, très, très difficile physiquement. Souvent, c'est les blessures. T'sais, oui, ça fait mal, admettons, de jouer avec un pied fracturé, mais c'est mentalement. C'est la guerre mentale de toujours dire « je vais être capable de jouer. Je vais être capable de finir le match. Je vais être capable de jouer le prochain match. Ah, puis si on gagne la coupe, je suis pas capable de jouer le match 7. » C'est juste cette petite guerre là, mentale-là. C'est épuisant, pas à peu près. Puis toute la saison en arrière, bien évidemment, les 82 matchs. Donc, j'appelle ça de la survie. Rendu en finale, c'est aussi simple que ça.
Wow! On se doute pas, tu sais, il faut l'entendre raconter par quelqu'un qui l'a vécu pour commencer à essayer de comprendre que dans le fond, vous allez au-delà de vos limites. Vous êtes, tu sais, quand on dit il marche chez fiume, excusez-moi l'expression, là, il marche chez vapeur, c'est un peu ça, mais faut quand même que, tu sais, faut quand même que ça soit des bonnes vapeurs parce que c'est l'opportunité d'une vie.
Exact, puis c'est ça qui te soutient d'une certaine façon, c'est j'ai mentionné l'adrénaline, mais c'est le rêve aussi là, t'as rêvé à ça toute ta vie, fait que tu viens à un moment donné que tu t'en fous, comme c'est comme peu importe ce que j'ai, m'a trouvé le moyen de jouer et de performer parce que j'ai attendu ce moment-là toute ma vie. Et puis tu sais, pour te donner un exemple, en saison régulière, les gars, ça va avec les necks, ça va faire un massage, chac de glace, un traitement. Là, fallait vraiment que tu mettes ton nom sur le tableau pour avoir un ordre à quelle heure, parce que tout le monde. Puis tu sais, c'est des grosses blessures. Là, moi, je me rappelle bien, je pense qu'il y avait eu 5-6 opérations une semaine après notre défaite en finale à Coupe Stanley dans notre organisation. Les gars étaient détruits, tout simplement.
Ah boy, m'a te dire une affaire, ça fesse d'entendre ça, Maxime, m'a te dire une affaire, tu sais, c'est beau à regarder, mais là, quand tu comprends tout ce qui se passe en coulisses, ben merci. Merci de nous avoir partagé ça, mon ami. Bonne fin de soirée. On se reparle la semaine prochaine, mon Max.
Salut, Mario.
À l'air conditionné? Je sais pas. Salut.
Ça, c'est sûr.
Bye, Max.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Le seul et l'unique, Antoine Roussel. Bonsoir Antoine, comment ça va?
Bonsoir Mario, ça va super bien. Écoute, je viens de rentrer de la maison, je viens de coacher 1h30 de game de soccer. Je suis épuisé, mais je pense au hockey puis à la finale de la Coupe cette année, puis j'ai tellement hâte que ça commence.
Hey, c'est-tu long la pause avant que ça commence, m'a dire une affaire?
On se rend compte des fois qu'on n'a pas grand-chose à faire le soir, non?
Ça nous accompagne pareil, hein? C'est ça pareil, le sport. D'ailleurs, je pense que je vais faire... Es-tu un amateur de sport, toi, Antoine, en dehors? Es-tu hockey, vraiment, 24-7? Ben,
pour moi, c'est hockey, tennis, soccer, je te dirais.
Okay.
Après ça, ben, puis durant la saison, bien entendu, il y a la NFL aussi. Mais c'est vraiment plus le hockey que je suis. Des fois, ben écoute, il y a seulement 24 heures dans une journée, donc on peut pas tout faire. Mais c'est sûr que j'essaie de me tenir informé sur le plus de sport possible.
Puis est-ce que la vague de chaleur frappe fort au Saguenay ou c'est endurable?
Absolument. Écoute, ma voiture affichait 38 degrés aujourd'hui à un certain moment donné. Écoute, je pensais qu'ils allaient annuler la pratique de soccer, mais ce ne fut pas le cas. ces petits garçons-là sont faits solides, ça a l'air.
Fait que là, le coach, il les a pas trop mis à l'épreuve. J'imagine, c'était pas... Tu sais, des tours de terrain, là, souvent inutiles qu'on nous faisait faire dans le temps, dans bien des pratiques, tout sport confondu, c'était pas la journée pour ça, là.
Non, c'était pas la journée pour ça. Aujourd'hui, c'était la journée pour les encourager, marquer des buts, puis qu'ils aient même du plaisir, puis que ce fut remporté, puis à haut la main, puis au niveau du succès, puis du plaisir, je pense.
Es-tu déçu de la façon dont les Stars ont complété la série contre Vegas?
Oui, vraiment. En fait, mais je pense qu'ils étaient vraiment fatigués, mais c'est décevant quand même parce que tu te bosses si fort pour arriver là, tu te bosses si fort pour te rendre aussi loin durant la saison, puis tu te rends compte que finalement t'es si loin de te rendre en finale de la Coupe cette année. T'es loin de la Coupe en tant que telle quand t'es rendu là, mais puis t'as battu tellement d'ouvrages, mais t'as laissé tellement d'énergie sur la table. Puis quand tu t'essaies de refaire une remontée puis que t'es 0-3, c'est excessivement difficile. Puis il y a seulement 4 équipes qui l'ont fait en à peu près 200 occasions dans la Ligue nationale. Donc les statistiques parlent d'elles-mêmes, mais tu penses toujours que toi tu vas être la 5e. Moi j'espérais que les Stars soient la 5e, puis on en avait discuté ensemble. Puis je t'avais même dit peut-être qu'on allait voir la 5e et la 6e équipe. Puis ben ça, c'est moi qui est toujours optimiste. Puis que quand je jouais, je pensais de cette manière-là parce que c'est ça qui te permet d'avancer puis de rester positif, même quand t'as des moments plus difficiles. C'est ça qui fait la différence au final, que tu ne t'apitoies pas sur ton sort, mais tu es en mode solution, pas en mode apitoiement. Là.
Plusieurs de nos experts, là, je suis en train de faire le compte ou le décompte, savoir si on a plus de panélistes ou de collaborateurs qui ont prédit une victoire de Vegas ou de la Floride. Là. Je vais te donner le score, mais toi, Antoine, est-ce que tu es prêt à te mouiller? Qui penses-tu va remporter cette série finale?
Ben écoute, j'ai envie de te dire que ça va être la Floride. J'aime l'attitude des joueurs de la Floride. Puis Mathieu Tkachuk, j'ai aimé plusieurs déclarations qu'il a faites, notamment par rapport à ce qu'on touche ou pas au trophée. Puis je trouve ça le fun qu'ils disent que tu le touches le trophée, tu l'as mérité. Tu as mérité ce trophée-là. Tu t'es rendu là, tu l'as mérité. Touche-le le trophée. Puis pour moi, ça montre à quel point cette équipe-là prend rien nécessairement pour acquis. Puis écoute, ils passent à travers des murs, que ce soit la meilleure équipe, la deuxième ou la quatrième meilleure équipe de la Ligue nationale, sont capables de rebondir, puis de faire leur place. Puis c'est ça qu'ils ont fait finalement. Là. Ils se sont pas fait intimider, pas en tout. Puis ils ont été, ils ont eu la chance d'avoir le réveil de leurs gardiens de but qui ont signé il y a quelques années un gros montant. C'est pas une question de montant, mais t'as signé un gars de calibre, 2 trophées Vézina, puis tu le cherchais, cette personne-là, pendant plusieurs années. Puis là, ils l'ont retrouvé, puis c'est ça qui leur permet d'être rendus jusque-là. Bien sûr, ils ont eu le brio de quelques joueurs, dont Mathieu Tkachuk, mais sans nuité de Brobovsky, pour moi, ils seraient pas rendus là.
Et c'est un facteur dans ta décision. Moi aussi, j'ai pris les Panthers de la Floride. Guy Boucher également a choisi les Panthers hier, de même que Maxime Lapierre. Mais pour le reste, pas mal toutes, les Golden Knights de Vegas.
Du monde qui connaît ça.
Du monde qui connaît ça. Mais dirais-tu que sur papier, Vegas est le meilleur club? Parce que moi aussi, tu sais, les gars ont des bons arguments. Les gars, les filles ont des bons arguments pro-Vegas. Mais il y a quelque chose qui est intangible avec la Floride, moi, qui vient me chercher.
Ben, je suis d'accord avec ça. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Je trouve que puis c'est ça qui les a fait avancer jusque là. C'est ils ont plus de le méchant là.
Oui.
Ils en ont plus de ça. C'est répandu à travers leur alignement. Puis ils sont capables. Eux, peu importe comment ils vont gagner, ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour gagner. Puis c'est probablement un petit peu le cas pour Vegas, mais pas au niveau de la Floride. Par contre, tu sais, Vegas, ils ont 4 trios qui sont capables de produire. On a vu dans le dernier match le trio de Nicolas Roy, Colossard, dominé avec William Carrier aussi, dominé en fond de territoire, de rendre la vie extrêmement difficile aux défenseurs des Stars du fait de leur vitesse, du fait de leur changement de direction et de leur protection de rondelle. Ils ont amené le ton au match, puis c'est ça qui a fait en sorte que pour moi ils ont été dominants dans cette série là. Tu sais, ils ont cette profondeur là, mais Jack Eichel aussi, Marchessault, je trouve qu'ils ont plus peut-être de sur leur quatre trios, c'est bien réparti cette puissance de frappe là, donc ça leur donne un meilleur avantage au niveau offensif, mais je peux pas compter contre la Floride parce qu'ils ont Bobrovsky.
Ouais, Bobrovsky, c'est incroyable pareil, hein. Et quand tu vas faire la genèse de je sais pas qui va gagner la Coupe cette année, mais tu sais, j'en parlais avec François Allaire hier. Tu sais, le bilan aurait pu être, ça a vraiment pas marché en Floride cette année, puis boum, ça a tout tourné. Fait que on proclame des génies pour pas grand-chose, des fois, je pense, hein, Antoine, parce que je sais pas s'il y a du génie derrière la construction de cette équipe-là, ou si il y en a sans doute. Tu sais, il faut que tu aies une bonne équipe pour avoir une chance que ça se produise, puis te mettre à gagner des matchs.
Ils ont de l'opportunisme aussi. Donc, je pense pas que cette équipe-là agit de cette manière-là s'ils n'ont pas Mathieu Tkachuk pour les inspirer. Mais t'es pas capable d'aller chercher un Mathieu Tkachuk s'il veut pas quitter le Calgary. Donc, tu sais, s'il veut pas quitter l'Alberta, puis t'as pas une monnaie d'échange à la Jonathan Huberdeau que tu peux échanger. Tu sais, le timing dans tout ça a été extraordinaire là, pour les Flames, parce qu'ils ont su profiter d'un moment où ils avaient l'espace, ils avaient un bon joueur qui pouvait se départir, puis même pas un, ils en ont donné deux plus un choix de première ronde. C'est beaucoup là. Donc ils ont su profiter de ce scénario-là. Est-ce qu'ils ont été chanceux puis visionnaires en même temps? Oui, mais des fois on fait notre chance aussi, donc probablement que Bill Zitron a profité, puis en ce moment ça paye des gros, gros, gros dividendes.
Sur une petite parenthèse, as-tu de l'intérêt pour la Coupe Memorial?
Absolument. Voir une équipe du Québec potentiellement gagner dimanche, c'est quelque chose qu'on va regarder assidûment.
C'est sûr. As-tu une relation avec Patrick Roy? L'as-tu connu?
Non, je l'ai jamais rencontré, à vrai dire. Je lui souhaite vraiment qu'il gagne. Comme je le disais, tu sais, tu rentres dans la ligue, tu gagnes, puis tu sors de cette ligue-là, tu gagnes. C'est un bon moment pour mettre un point d'exclamation sur une très belle carrière de coaching. Puis, de carrière en général, que ce soit en tant que joueur et coach, probablement qu'il va continuer dans d'autres fonctions, lesquelles, peut-être à Québec, peut-être ailleurs. Seulement lui le sait, là, de qu'est-ce qu'il veut faire. Oui. Puis, je pense que quand t'es rendu là dans ta vie, tu fais seulement ce que t'aimes. Et tu prends les décisions seulement avec la passion, puis tu penses pas au reste finalement.
Qu'as-tu pensé ou comment tu réagis à l'annonce de la nouvelle de l'embauche de Kyle Dubas à la présidence des opérations hockey des Pingouins de Pittsburgh?
Écoute, surpris et pas. Je pensais sincèrement que je pense pas qu'il bluffait, que tu sais, quand il disait qu'il voulait pas d'autres travail. À un moment donné, il avait mentionné que c'était soit les Maple Leafs ou rien. Mais je pense que tu chemines quand t'es
Si tu me permets, Antoine, oui, excuse-moi de t'interrompre, mais il a dit, puis je sais pas s'il y avait des idées en arrière de la tête, mais il dit, je ne serai pas GM nulle part ailleurs qu'à Toronto l'an prochain. Mais là, il est président. Il est GM par intérim, mais il s'en cherche un. Fait que je sais pas s'il y a déjà eu du maraudage ou une conversation d'ascenseur à un moment donné, ou un clin d'œil d'un de dire à l'autre, un jour, si tu cherches l'ouvrage, appelle-moi ou quelque chose dans le genre. Tu sais, il y avait peut-être...
C'est possible.
Hein? Ouais, ça, tu penses que ça se peut?
Je pense que c'est possible. Tu sais, ces choses-là sont difficiles à prouver, puis tu sais, tu veux pas perdre de temps avec ça non plus. Je pense que c'était les mains pour les... Si quelqu'un veut quitter le navire, ben tu veux quelqu'un qui soit là, présent, puis qui veut vraiment être là. Je pense qu'il voulait être là, mais il a été émotif. Il a livré ses états d'âme après des séries qui ont été difficiles, une saison difficile, des séries difficiles, une élimination pas comme il l'aurait voulu. Donc ça laisse ses traces là, en tant que joueur, mais aussi en tant que dirigeant. Tu bâtis cette équipe-là, tu passes un nombre d'heures incalculable pour essayer de monter le meilleur alignement possible, puis t'échoues. C'est sûr que ça laisse des traces, et des fois, t'es émotif quand tu parles quelques jours après ton élimination. Donc, je pense qu'il s'est trop ouvert, puis ça lui a coûté son travail finalement.
Le meilleur job dans le hockey, c'est président ou vice-président des opérations hockey. T'as un méchant coussin de protection. Regarde Shanahan, lui.
Je suis d'accord.
Hein? Regarde Shanahan, il est-tu bien? Fait que Dubas a compris ça. Hey, la job de DG, c'est dur sur ma famille. Président, hey, il est correct pour les 10-15 prochaines années.
Ben, c'est sûr.
Comme
c'est
Jeff Gorton à Montréal. Jeff Gorton était situé pour un bon 10 ans facile, là.
Facilement. Puis quand tu regardes à George McPhee à Vegas, a fait un alignement incroyable, se rend en finale, puis il laisse sa place pour prendre un poste de président. Ben, lui, chapeau au-dessus du GM, puis un GM, généralement, ça reste 4-5 ans dans une équipe. Ben, t'as l'opportunité d'en peut-être choisir un ou deux, donc, ou plus. Donc, c'est sûr que c'est évident que ta sécurité d'emploi est beaucoup mieux à ce moment-là.
Je te fais entendre un extrait de conférence de presse de Bruce Cassidy, l'entraîneur des Golden Knights de Vegas, sur l'apport des Québécois au succès des Golden Knights de Vegas. On l'écoute.
The Quebec guys are always tight. It's just the way it is. Because I think, you know, it starts with the language. There's a lot of young guys that come up and they feel comfortable. No different than if a European player comes over, and so I think they naturally gravitate towards one another. They probably train to a certain extent at home in the summer. So they're tight, close-knit guys. There was a game this year, I put them out together for once, just to, you know, what the hell, let's give them a shot out there, and I think it was just by dumb luck, but always wondered if it would stick, right? Because there's right winger, center, left wing for us, but at the end of the day, Nick plays with Will, so he's got one of his buddies on his side, but I think it's great. I speak a little French, so they can't fool me if they're talking about me, that much I know, and I told them that early on.
Alors, je traduis rapidement Bruce Cassidy, qui dit que, bon, mais les gars du Québec, c'est un peu comme les Européens, c'était probablement le langage. Il dit, c'est des gars qui, tu sais, qui sont assez serrés, qui se tiennent ensemble, qui probablement même que quand t'as l'été, il y a des, tu sais, sans être sûr de ce qu'il dit, mais tu sais, il dit probablement qu'ils s'entraînent ensemble. Et il dit, à un moment donné, j'ai essayé même, je les ai mis les trois sur le même trio, tu sais, puis il dit, je vais tester, je vais voir ce que ça va donner. Mais il dit, je leur ai dit, je connais un petit peu de français, fait que les gars pourront pas rire de moi. Les langages dans un vestiaire, ben, t'as peut-être une réaction à ça, puis ça fait peut-être penser à des situations. Je sais pas si tu as été souvent avec d'autres francophones dans un vestiaire, Antoine.
Non, puis ça m'a toujours déçu. J'ai pas eu la chance d'avoir une grosse communauté francophone seulement dans la Ligue américaine, ma troisième année. Puis c'est vrai ce qu'il dit, tu sais, quand tu parles le même langage, tu gravites plus facilement. Ça veut pas dire que tu vas être le meilleur ami du monde. Des fois, tu as des personnalités qui fonctionnent pas. Mais généralement, ben, tout est plus facile. Puis c'est la nature humaine d'essayer d'aller dans la facilité. Donc, tu te fais beaucoup plus d'amis. Puis tu partages une certaine culture où il y a des choses que ta famille ou toi, tu vis, que d'autres nationalités ne peuvent pas comprendre. Mm-hmm. Donc, c'est normal que tu te rapproches. Donc, eux, ils ont cette opportunité-là. Puis je pense que ça fait plusieurs années qu'il y a plusieurs francophones dans cette équipe-là aussi. Oui. Donc, ils bâtissent quand même quelque chose de très solide. Puis, pour moi, ça a dû partir de Marc-André Fleury, d'instaurer... T'sais, quand tu parles pas le même langage, ben, ce que tu fais généralement, c'est que par exemple, tu es avec deux francophones, il y a un anglophone qui arrive, ben, la conversation se transfère tout de suite en anglais. C'est par mesure de respect, mais généralement, quand il y a personne d'autour, ben, c'est juste en français. Puis ça te permet de te sentir un petit peu comme à la maison, puis tu te sens toujours un petit peu mieux.
T'es-tu déjà senti seul dans un vestiaire à cause du langage ou t'avais des habiletés sociales qui te permettaient de passer par-dessus?
Je pense que j'avais des habiletés sociales pour passer au-dessus de ça, même si mon anglais était très très difficile au début. Puis Bruce Cassidy, ça a déjà été mon coach ma première année professionnelle. Puis j'ai pas eu le choix d'apprendre l'anglais à la dure parce que à ce moment-là, mon anglais était plus que précaire.
As-tu aimé le coach qu'il était à Cassidy? Puis c'est sûr que c'est sûrement pas le même homme, mais tu penses que c'est un bon coach?
Ben, je pense que c'est un bon coach, mais je n'ai pas nécessairement. C'est pas le coach que j'ai préféré.
OK, OK. C'est très, très exigeant, quoi, un peu.
Exigeant, pas forcément facile. Moi, j'avais besoin probablement de quelqu'un qui soit plus. J'avais pas besoin de quelqu'un de dur envers moi. J'avais besoin de quelqu'un qui prenne le temps de bien m'expliquer les choses, puis d'y aller un petit peu plus. Je te dirais pas que des gants de velours parce que c'est pas nécessairement que j'avais besoin, mais tu sais, plus
humain,
que ça soit plus facile, plus humain un petit peu. Puis je me suis c'était pas dans ses traits de caractère à ce moment-là.
Bon, on a vu qu'il était coquet un petit peu parce que l'autre jour, quand il a parlé de l'effort de son club pour un peu provoquer ses Knights de Vegas, il a fait allusion au fait qu'il n'aurait même pas battu les Coyotes de l'Arizona. Là, il était obligé de s'expliquer. Si tu avais été un Coyote encore...
Tu t'es senti insulté? Non, mais...
Oui?
Parce que je sais bien ce qu'il veut dire, mais des fois... C'est comme si tu prends de haut certaines équipes, puis n'importe quelle soirée, n'importe quelle équipe peut battre tout le monde. T'sais, en Arizona, les gars travaillent excessivement fort, puis André puis Mario Duhamel font un travail extraordinaire avec cette gang-là. Puis le gym de cette équipe-là lui donne aucune munition, il fait rien pour l'aider, pour améliorer la situation de ce club-là. Puis André fait tout un travail, là. Même si ça paraît pas dans le classement.
On est conscient.
On est conscient que tu sais ça travaille fort, mais oui, c'était un peu insultant, c'était un peu autant, puis je pense que puis même André, tu pourras lui demander, là, peut-être que ça l'a fait sourciller. J'aurais pas aimé ça le voir être dans la même pièce que lui à ce moment-là.
Sais-tu quoi? Ça va revenir sur le tapis la saison prochaine, ça, c'est sûr et certain. il y a beau s'être excusé. Antoine, gros merci. Un bon jeudi soir. Tu voulais-tu rajouter un petit quelque chose, excuse?
Non, je voulais juste te souhaiter un bon jeudi soir à toi aussi et à tous les auditeurs.
Bon, mais parfait. Bonne fin de soirée, mon Antoine. C'est la chaleur. Salut.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Et à l'instant même, j'accueille Stéphane Waite. Bonsoir, Steph.
Salut, Mario.
Comment vas-tu?
Ça va très, très bien. Il fait beau. On joue au golf. On regarde du hockey quand il y en a.
Quand il y en a, trouves-tu ça difficile? Ça débalance pas trop ta routine?
Ah, c'est, ben. Écoute...
T'es pas un gars de basket, ben, tu tournes pas vers le basket.
Non, hein? Moi, j'appelle ça le ballon panier, là.
Non. Toi, c'est le baseball.
C'est le baseball. Non, j'écoute du baseball. J'ai écouté les Blue Jays hier encore une fois.
Victoire après-midi, d'ailleurs,
ouais,
les Jays.
Oui, oui, oui. Puis, c'est hâte que la série commence, ça, samedi. Là, c'est long. C'est très long. Puis, moi, je trouve ça long. Imagine-toi pour les joueurs. Les Panthers, ils vont être à leur 10e journée quand ils vont jouer à samedi. Là, ça va faire 10 jours. Donc, c'est extrêmement long. Ça finit pas. Puis, quand tu joues dans les séries, puis tu gagnes, puis tu as un bon momentum, tu veux pas arrêter. Et puis ça, là, ça m'inquiète, ça, du côté de... On a parlé un peu cette semaine, ça m'inquiète.
Oui. J'en ai parlé avec Guy hier aussi, qui sera là tout à l'heure. Lui, il dit que le fait que Vegas aussi est obligé d'arrêter plus que 3 jours, il dit que ça atténue. C'est moins long, mais il dit que c'est...
Moi, je trouve que Vegas, c'est juste parfait. Ça, ils m'ont eu 4 jours sans jouer. Ça, c'est juste parfait.
Mais toi, t'essaies de te convaincre que t'as fait la bonne prédiction, là.
Ben, exactement.
Tu trouves des raisons? Non, mais je pense que oui, effectivement. S'il y a un facteur, je pense que ça tourne du côté de nos amis de Vegas. Marchessault, ouais. Est-il un candidat au Conn Smythe, sans chauvinisme, ou Carlson est en avant de lui, ou un Smith même?
Ben, Carlson.
Même Eichel, j'ai oublié Eichel.
Eichel en est un. Pour moi, Stone en est un. Stevenson en est un. Parce que c'est tellement...
Une bonne équipe.
Sont tellement équilibrés. Il n'y a pas un qui dit « Wow, il y a des séries incroyables. » Puis il n'y a pas un qui dit « Wow, il y en a 4-5 qui traînent l'équipe.
Oui. »
Puis c'est ce qui fait que moi, j'aime Vegas. Parce que les 3 premiers trios, ils ont été impressionnants, Mario. Incroyable. N'importe qui, quand t'as Carson là, sur ton 3e trio, t'es pas dans le trouble. Tu sais qu'il peut aller chercher des gros buts. Les 2 premiers trios, même chose. Puis t'as une 4e ligne qui, on a parlé encore cette semaine, ont fait la différence dans le dernier match contre Dallas. Nos 2 Québécois, Carrie et
Roy, Nicolas Roy.
Et Roy, donc...
Avec
Cole Sarr. Ils ont fait tout un job. Et puis, écoute, moi, j'adore cette équipe-là.
Es-tu un fan... Toi, là, si t'étais le DG d'une équipe, là, il ressemblerait à quoi ton 4e trio, Stéphane?
Ben, il ressemblerait exactement à ce qu'ils ont. Un trio d'énergie. Et puis, c'est... T'as pas de place pour un gars qui, on dit en anglais, soft. t'as pas de place pour un quatrième trio. Tu peux pas avoir ce genre de joueur-là. Parce que ton quatrième trio-là peut changer l'allure du match. Souvent, ton équipe dort, tu dis à ton quatrième trio, Alex Go et Boys, réveillez-moi ça, cette équipe-là. Là, les quatrième trio en bas de glace vont tout brasser. C'est important, ce quatrième trio-là. Et puis,
de mémoire, là, c'est quand le dernier bon quatrième trio que le Canadien a eu?
Oh my God.
Boy!
Je me souviens quelques années, toi, on avait Nicolas Dédoré qui faisait tout un job sur notre quatrième trio.
Pourquoi qu'on le laissait aller, lui?
Ah, ça.
As-tu compris la patente, toi? Y a-tu des petites histoires de coulisses ou.
Non,
il est parti comme. Je sais pas.
Exact.
Claude n'était pas maniaque, peut-être, de son style de jeu.
Ça dépend souvent de ton coach, hein. Tu veux dire, chez Michel Therrien, il l'adorait. Et puis Claude, peut-être un petit peu moins, mais je dis pas que c'est Claude qui a voulu s'en débarrasser, mais à un moment donné, il a commencé à moins jouer. Mais je me souviens aussi, à la défense de Nicolas Deslauriers, à ce temps-là, il avait eu au camp d'entraînement, il avait manqué beaucoup de matchs parce qu'il s'était battu contre Badock.
Ah oui, Brendan Badock.
Badock, qui était dans ce temps-là
le gars de la
à
filiale,
New Jersey.
Oui.
Exact. Qui était à New Jersey. Il avait pris une bagarre puis il s'était cassé l'os de la joue. Et puis ça, là, Nicolas, ça y a pris un an avant de s'en remettre parce qu'il a commencé le nan tard de quasiment 2 mois. Puis rendu 2 mois, mais là, t'es tellement en arrière de tout le monde qu'il a fait qu'il n'a pas beaucoup joué le restant de la saison. Et puis c'est un peu ça qui est arrivé. C'est un concours de circonstances.
Okay.
Mais c'est le genre de gars que tu rêves d'avoir son quatrième trio. Il a-tu fait le job l'année passée avec Minnesota, avec Anaheim et cette année avec les Flyers? C'est le genre de gars que tu veux avoir dans ton équipe, puis c'est le genre de gars que tu veux bâtir à Montréal.
Mais nous autres, on a souvent eu des quatrièmes trios plutôt doux, si tu pourrais employer.
Ouais, ça marche pas.
Pour
ça.
Traduire l'anglicisme soft, c'est pas le mot approprié, mais tu sais, souvent on a mis des gars de talent à 4. Mais ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est une quatrième plus talentueuse que tout le monde. Peut-être que tu gagnes aussi,
ouais,
tu sais, talent versus robustesse.
Ouais, mais ça prend pour moi la priorité du quatrième trio, c'est des gars d'énergie. C'est un gars qui va changer le tempo d'un match et puis exactement ce que le quatrième trio de Vegas ont fait le dernier match. Moi, c'était toute une décision, ça, de
commencer le match avec.
Commencer le match avec ton quatrième trio parce que les deux derniers matchs avant, tes gros joueurs dormaient. Et puis, ça a changé le match en partant. Après les deux trios, les deux premières présences de ce trio-là, à un moment donné, c'était rendu 3-0, puis on n'a même pas la moitié de la période de fête. Mais c'est ce quatrième trio-là qui avait démarré tout ça.
C'était qui le quatrième trio du Canadien l'été 2021? Question quiz pour mes amis en régie, puis ceux qui sont à l'écoute au 98-900. Quelqu'un m'écrit de la Papy Line de 2021. C'est pas loin, là. Je sais pas si on commence à faire de l'Alzheimer, tout le monde. Mais Perry jouait sa carte.
Ouais, Perry avec Stars.
Lui, il dit la Papy Line. Est-ce qu'elle avait un surnom? Donc, je me rappelle pas qu'il y avait
avoir,
un surnom.
Stalls qui
ouais,
était
Stall,
là.
Ouais, Stall, Perry. C'était qui le troisième?
Ça, c'est une bonne question.
Je pense que ça variait. Mais c'est, mais on a plein d'amis à l'écoute. Là, on va avoir la réponse 9-8, 9-8-5. Voilà. As-tu entendu? Bon, tu nous disais que Bruce Cassidy, c'est un ami à toi.
Ouais.
On a fait jouer un extrait tout à l'heure alors qu'on était dans la première heure où il parle de l'impact des joueurs francophones de Vegas. Il dit qu'il parle un peu de français.
Oui,
savais-tu?
Oui, ben oui. Genre, on a souvent parlé. Il est gêné, Butch, de parler français.
D'où ça vient, son français?
Ben d'Ottawa, c'est un gars d'Ottawa, puis la moitié des personnes d'Ottawa parlent très bien français, donc il a appris beaucoup de français à l'école.
Armion, qui est le troisième, je pense.
Ah, ça se peut. Et puis, il y avait beaucoup d'amis français, québécois, ou qui parlent français à Ottawa. Et puis, non, il parle beaucoup mieux qu'il dit. Moi, j'ai une petite anecdote. En 2004, je pense qu'il y a eu toute une année de lockout. Et puis Butch, il était, quand je parle de Butch, c'est Bruce Cassidy, c'est son surnom, Butch. Et puis, il était assistant coach avec les Blackhawks, et moi j'étais un entraîneur avec les Blackhawks, donc on est passé une année sans hockey à Chicago, dans la Ligue nationale. Bob Pulford, le gérant général de l'époque, nous avait envoyé, moi puis Butch, à Norfolk, en Virginie.
Avec le club de la Ligue américaine?
Exactement, on a passé une année là, puis on est resté ensemble. Donc, ça a été mon roommate là, pendant une saison, puis il parle très bien français.
OK, il parle pas juste un peu, là, il parle très bien. Fait que quand il dit « les gars peuvent pas se moquer de moi », je leur ai rappelé que je comprenais le français.
Exactement.
c'était tout à fait vrai. Voilà. Donc, je voulais t'amener sur un autre sujet, ça me fait perdre le fil. J'étais dans le quatrième trio, il y a plein de textos, quelqu'un qui me dit « Frolic ». Donc, Frolic, lui, c'est vrai qu'il était... Frolic, on l'a eu quelques jours ici à Montréal, je dirais. Mais ça, ben moi, on l'a eu quelques jours. Mais oui, on a eu une saison.
Une saison de temps.
Ouais. Et puis, mais c'est pas cette année-là.
Il a pratiquement pas joué de la saison. Ouais. Je pense qu'il était, il est sorti de site frustré parce qu'à un moment donné, il avait accusé le Canadien d'avoir mis fin à sa carrière en l'année où on l'avait pas fait jouer pour quelques matchs dans toute la saison.
Ouais, je me rappelle. Mais c'est un gars qui avait été utile à Chicago, par exemple.
Oh, il avait été très bon.
J'avais bien aimé à Chicago.
Il avait été très bon. Ben, on parle des
en
joueurs.
En début de carrière, là.
Oui, on parle des joueurs de profondeur. On avait été le chercher de la Floride et puis il nous avait été très bon pour nous autres en 2013 quand on a gagné la Coupe Stanley. Ça, on parle de gars de profondeur, ça n'était un bon.
Toi, si t'étais multimilliardaire puis t'avais un club de hockey, là, t'aurais-tu embauché Kyle Dubas comme président de tes opérations hockey?
Bonne question, hein. J'ai été surpris un peu. Je pensais qu'il aurait été gérant général, mais quand on a entendu le président du groupe Fenway, les propriétaires des Pingouins,
et des Red Sox,
exactement, dire que, écoute, ce qu'il aimait, c'est premièrement que c'est un jeune, mais que c'est un jeune qui a démontré qu'il était à l'avant-garde. Et puis,
ils essayent de reproduire un Théo Epstein, eux autres, de Chicago. Je sais, parce que ça a marché
c'est
pour vrai, eux autres.
C'est une bonne, oui, c'était peut-être une bonne
analogie, une comparaison.
Comparaison, puis devenant justement des propriétaires des Red Sox. Mais c'est le même qu'ils voient, eux autres, un jeune qui est à l'avant-garde, exactement comme ce que tu viens de dire, Théo
Epstein
qui était avec les Red Sox et puis qui est devenu après avec nos Cubs à Chicago. Donc, je pense qu'il a fait une bonne job à Toronto. Il est allé chercher des morceaux qu'il avait besoin. Ça a juste pas cliqué. Mais je pense qu'il était actif quand c'était le temps. Il était téméraire quand c'était le temps. Il a pris des risques quand c'était le temps. Moi, j'ai pas de trouble avec ce qu'il a fait à Toronto. Il a tout bien fait sauf gagner. Et puis, ça m'amène à...
Mais tu sais, en même temps, Steph, je vais faire un peu l'avocat du diable. Pas pour le comment dirais-je, pas pour noircir son bilan, mais tu sais, il pouvait pas ben mal paraître. Ton club va dans la cave, tu gagnes à la loterie, ça peut pas ben mal aller, puis aussitôt qu'il était le temps de gagner, il gagnait pas. Ouais. Mais c'est comme Montréal, là, les quatre prochaines années, ça peut pas ben mal aller. Tu sais, il y a des jeunes qui poussent, puis ils vont avec la galère, vont s'améliorer un peu chaque année, puis là, ça va être de faire les séries. Puis là, ben, qu'on perde ou qu'on gagne, il va falloir perdre une couple de fois en série avant que le monde soit fâché, là, tu comprends?
Ouais, exact. Fait
que, tu sais, quand tu décides de couler, tu t'achètes la paix pour un méchant bout de temps, là. Non, fait que lui, il a grandi là-dedans. Je dis pas qu'il a pas été bon,
ouais.
Mais il y a eu le Matthews à la loterie, il y a eu des hauts choix de repêchage. Fait que tu vas bien paraître
lui,
autour de ça.
Lui, il a pas eu parce qu'il était adjoint à ce temps-là.
Ouais, mais il a bâti avec ça, pareil.
Il a parti avec ça. C'est Lou Lamoriello qui a amené tous ces gros gars-là. Là. Matthews, Marner et puis Tavares, c'est lui qui a signé. Donc, Dubus, lui, il a signé.
C'est Lamoriello qui a signé Tavares?
Ouais.
OK, je me rappelais pas de celle-là.
Oui, puis je me souviens l'été. Je me souviens.
Je sais pas si Dubas, peut-être que Dubas l'aurait pas signé, mais.
Ben, peut-être, mais il y a une affaire qu'il était là quand même. Il était assistant de Lou Lamoriello. Donc, ben non, moi, je pense qu'il a fait une bonne job quand même. Et puis, écoute, si on dit que tous les GM qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley sont pas bons, il y a une maudite gang de pas bons.
Non, mais pas gagner une ronde éliminatoire jusqu'à cette année. C'est pas juste la Coupe qui est mon critère.
Je suis d'accord.
Ouais. Perry, Armia et Stahl étaient bel et bien le quatrième trio.
Oui, ça, j'aime ça.
Oui, et d'ailleurs, Martin McGuire avait surnommé, me dit-on, je me rappelais pas de celui-là, le trio des Mononcles.
Ah ouais, c'est bon.
Mais les Mononcles avaient fait la job.
Les Mononcles font la job, puis c'est incroyable de voir que déjà, encore deux ans plus tard, Perry est encore dans la ligue. Stahl fait encore une différence avec les Panthers dans le même rôle qu'il y a deux ans avec Canadien. Et puis, ça va être intéressant. J'ai bien hâte de voir les gardiens de but en présence. Là.
Un mot sur Trey Living à Toronto. Donc, lui, il s'en va en Arizona. Premier item de son nouveau mandat, et c'est d'aller établir une relation avec Austin Matthews. L'importance d'avoir une relation avec ton joueur vedette. Mais comment tu réagis à cette démarche-là, puis qu'il l'annonce?
Premièrement, ça prouve ça, Mario, là, parce qu'aujourd'hui, Dubus a parlé à Crosby. C'était une de ses premières choses qu'il a faites. Il a parlé à Crosby. Là, t'as Trey Living qui arrive aujourd'hui, puis une des premières choses qu'il dit, c'est d'établir une relation avec Matthews. Donc, il va voyager en Arizona pour le voir.
C'est qui mène?
Tout ça pour te dire, là, que tes joueurs de concession, là, ils amènent large puis pas à peu près. Et avec raison. Si tes joueurs de concession sont pas heureux, t'es dans le trouble.
Dirais-tu que Carey emmenait aussi large à Montréal?
Non, non, jamais. C'est drôle parce que je pensais à ça aujourd'hui. Tu sais, vous êtes à Montréal, j'ai jamais vu vraiment fait à... je sais que Marc, il l'a souvent consulté sur des choses, ce qui est normal, c'était notre meilleur joueur.
Il voulait le garder de bonne humeur, il voulait que c'était important.
C'est important de consulter, puis tu sais, quand t'es ton meilleur joueur, ton joueur de concession que tu signes pendant longtemps, c'est important de consulter ce gars-là. Donc, mais j'ai jamais senti que Carey voulait emmener large, comprends-tu? Donc, c'est drôle, puis on en parlait encore cette semaine, j'étais allé dîner avec mardi, et puis... on en parlait, tu sais, souvent que lui, il aimait ça faire ses affaires, tu sais, être le cheerleader, tout ça, c'était pas dans sa nature. Lui, là, la façon d'être un leader, c'était de se préparer, puis de la façon qu'il se préparait, la façon qu'il s'entraînait, la façon qu'il prenait soin de son corps, là, après.
Oui. C'était sa routine.
Sa routine, c'était ça, son rôle de leader.
Il va bien, juste une petite parenthèse, il va bien, Carey?
Ouais, il va très bien. Je l'ai trouvé tellement épanoui, heureux. Il a l'air en.
C'est ce qu'il dégage sur ses photos Instagram. Il arrive de la pêche des Maritimes.
Oui,
là,
il m'a compté son voyage de pêche dans les Maritimes, sur la rivière Miramichi, qu'il m'a dit.
Oui.
Et il m'a dit qu'il en a pêché tout un.
Méchant monstre.
Et puis non, écoute, c'était le fun. On a passé une couple d'heures à jaser ensemble. Et puis, comme je te dis, il a l'air tellement épanoui. Puis là, quand je lui ai dit, la première chose que j'ai dit quand je l'ai vu, j'ai dit, wow, t'as l'air en game shape. Il est mince, il est en forme, il s'entraîne encore régulièrement au Complexe Bell ici. Puis écoute, il va très, très, très bien. Je suis bien content de...
Il n'a pas déménagé, il n'est pas retourné dans l'Ouest encore?
Je pense. Ben non, je t'ai dîné avec, je suis pas allé.
Non, mais je pensais qu'il était juste de passage.
Non, mais je pensais
qu'en revenant des Maritimes, il est arrêté à Montréal quelques jours.
Ah, non, Mario, ces jeunes enfants finissent l'école dans 2 semaines.
Ben oui.
Dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, après ça, ils vont retourner chez eux à Kelowna.
Là, je pose la question que tout le monde à l'écoute aurait sûrement envie de te poser après que t'aies dit en blague, « Hey, t'as l'air game shape, Carey. » Carey part à rire, ha, ha, ha. Dans ta tête, quand tu le regardes, c'est fini, là. C'est vraiment fini.
Ouais, c'est... Je pense que oui. Écoute, je vais pas répondre à sa place parce qu'il me l'a pas dit. Tu sais, il garde tout le temps petite porte ouverte qui est peut-être 5%, mais il y a...
Je pense pas qu'il a pas fermé la porte complètement dans sa tête.
Ouais.
Mais je sais que tu veux pas faire de l'affaire qui va se ramasser en grosse manchette. Ouais. Stephen White dit que Carey Price... Bon, fait,
il pourrait revenir. Non, mais comme je te dis, là, non, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais tout ce qu'il me dit, c'est qu'il peut vivre une vie normale avec son jeu en ce moment. Ah. Ça, pour lui, c'est important. Il voulait pas une de ses peurs. Lui, ça a tout le temps été de dire, après sa carrière, de ne pas être capable de jouer avec ses enfants, puis de boiter, puis de pas avoir une vie normale. Ça, il l'a en ce moment. Et puis, le futur dira qu'est-ce qui va se passer avec Carey. Mais écoute, c'est sûr que les chances sont plus que minces.
De passer d'un sujet à l'autre, Stéphane, je t'ai pas laissé compléter ce que tu voulais dire sur peut-être le mandat de Tree Living. Et donc, aller rencontrer Austin Matthews, démarche numéro 1, l'importance des joueurs vedettes. Mais c'est intéressant de déboucher là-dessus. Mais comment vois-tu l'amorce de son mandat? Est-ce qu'il garde... Quand il est arrivé à Calgary, il a gardé Bob Hartley en poste. Mais Bob avait eu toute une année, je pense, je ne me trompe pas. C'était pas l'année après son Jack Adams, mais il l'avait gardé en poste. Je ne sais pas s'il va faire la même affaire avec Sheldon Keefe.
Oui, puis ça, c'est son deuxième mandat, c'est de rencontrer Sheldon Keefe, d'avoir une lecture de ce gars-là, voir, bon, OK, fais-tu dans qu'est-ce que je veux amener ici à Toronto. Puis sûrement, tout, écoute, il ne faut pas se cacher, là. Il va aller voir Matthews, il va dire, qu'est-ce que tu penses du coach? Puis il va aller voir Marner, qu'est-ce que tu penses du coach? C'est certain, ça.
Les gars, tu penses qu'ils osent dire ce qu'ils pensent?
Oui. Tout seul, oui.
Mais tu veux pas être pointé comme le gars qui a coupé la tête du gars?
Non, mais ça veut pas dire que ça vient de
Non, peut-être qu'il l'aime, le coach aussi.
Oh, ben exactement.
Peut-être qu'il l'adore.
Puis c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec Barry Trotz, qui est arrivé gérant général à Nashville. Il a sûrement consulté des joueurs. Qu'est-ce que tu penses du coach? Puis c'est de là qu'ils ont voulu faire un changement avec remplacer Hines pour Andrew Brunette. Donc, c'est normal. Un nouveau gérant général va avoir le pouls de ce qui se passe dans cette équipe-là.
Hines, apparemment que tout de suite, les Rangers veulent y parler.
Ouais.
Drury n'aurait pas parlé à Patrick Roy encore.
Puis ça, là, c'est normal. Le Patrick, il est dans une mission en ce moment. Tu vas pas rappeler un coach puis dire « Hey, j'aimerais ça te rencontrer. » Ce serait pas respectueux, ça.
Tu penses pas? Non. Justin Robida a signé un contrat cette semaine?
Oui, je sais, mais ça, ça se fait avec son agent, ça.
OK. Fait que tu penses pas qu'il était
agent. Tu sais, Justin
Robida, il a le contrat le plus simple de ta carrière à signer.
Ben oui. Écoute, c'est un contrat d'entrée que c'est la formule, le même contrat que tout le monde. Donc, Justin Robida, il était pas impliqué là-dedans, mais parler à Patrick Roy, c'est pas le temps. Il vit ça une grosse semaine. Il est en mission, il veut gagner la Coupe Memorial.
Ça serait un manque de respect?
Fait que oui, les équipes doivent, ils vont comprendre ça. Puis les équipes, là, le lendemain, vont dire, écoute, on peut-tu te parler? Puis il y a peut-être eu des approches de gars. Dérange rien, là, Patrick.
Puis il y a un agent, là.
Oui.
Il y a un agent, il a embauché un autre agent, Gil Scott.
Exact. Fait que ça peut-être dire, gars, là, dis à Patrick comme on a, qu'il finisse, qu'il fasse sa semaine, puis après, la semaine prochaine, on aimerait ça y parler. Fait que s'il y a de quoi, c'est le même que ça se fait. Fait que c'est normal qu'il n'y ait pas aucune équipe qui ait parlé à Patrick cette semaine. C'est normal, puis ça amoindre des choses.
Je
suis pas surpris. Mais je sais qu'il y avait bien du monde qui disait, ah, il a rien gagné. C'est quoi, pourquoi que, j'ai tout le temps entendu des bonnes choses de ce gars-là. Même de Bob Hartley, qui l'a aimé. J'ai entendu Kirk Muller, qui m'a dit que c'était un maudit de bonne personne, puis un bon gars de hockey. J'ai rien qu'entendu des bonnes choses de ce gars-là. Donc, dans la Ligue nationale, c'est un cercle fermé.
Il y a ça, un bon nom, lui.
Ça se parle. Puis dans la Ligue, il y a une bonne réputation. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis pas surpris.
OK. Puis c'est dans ce sens-là que Patrick n'a pas eu de téléphone depuis qu'une couple d'années?
Peut-être aussi, mais comme on a parlé cette semaine, il faut qu'il y ait une chance. J'espère qu'il va avoir sa chance, puis il la mérite. Et puis, comme j'ai encore dit depuis deux semaines, puis depuis deux ans, je le dis, Patrick Roy fait une affaire de bien. Il gagne. Comme joueur, il gagne. Comme coach, il gagne. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Mm-hmm. Non, écoute, c'est...
Et je verrais dans un gros marché comme New York. Écoute, le gars, là, il a de la prestance. Le gars, il se laissera pas endormir par personne. Le gars, il a gagné. Le gars, c'est un temple de la renommée. Le gars a gagné le Jack Adams. Il arrive dans la chambre des Rangers avec une coupe de grosses vedettes. Là. Patrick Roy, ça le dérangera pas, ça. Et puis, c'est le genre de gars que j'aimerais avoir.
Il y a toutes sortes de rumeurs. En terminant, c'est un texto. Merci d'être à l'écoute. 98985, quand vous avez des questions suggérées aux gens avec qui je discute en ondes, vous avez des commentaires, des opinions. La personne écrit, fait amusant. Chez Théodore n'a pas été sélectionné au repêchage d'expansion. Il a été échangé pour protéger, trois petits points, Brandon Montour. Mais les deux sont partis.
Ben oui, c'est incroyable.
Puis Montour, c'est tout un joueur, là.
Il y a des séries incroyables.
C'est un bon patineur. Wow.
C'est un bon patineur. Un petit peu suspect dans sa zone, mais un bon athlète.
Qui ne l'est pas? Qui avec du talent offensif n'est pas un peu suspect?
Les six défenseurs de Vegas.
Oh.
Que j'ai adoré dans leur zone.
Il continue de mousser sa prédiction. Mais tu m'ébranles, je dois dire que tu as eu des bons arguments. Ça a été tough de persister avec ma prédiction des Panthers de la Floride. Alors, j'ai été un peu rassuré que Guy et Antoine et Max penchent sur le même bord. Je me suis dit, bon, je suis pas fou, il y en a d'autres.
Mais on est une mauvaise de gang depuis le début des séries qu'on s'est trompé.
Hein? Ouais, tu peux être sûr. Hey, qu'est-ce que tu avais prédit en finale?
Ah, j'avais Boston à Colorado au début du
match. Ah oui, on avait même affaire. Boston, Colorado, on a la fin.
Ça fait longtemps qu'ils sont plus là.
Ça fait longtemps qu'on est off, nous autres.
Les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.